comment rendre l'accès au numérique plus inclusif. Une émission spéciale sur Radio Territoria.
Bonjour à tous. 76% des Français se disent prêts à adopter de nouvelles technologies. Bonne nouvelle, mais problème. 13 millions de Français se disent en même temps éloignés du numérique. Il y a une équation à remplir. Deux experts pour en parler, deux directeurs, puisqu'il s'agit de Geoffroy Boulard, vice-président délégué à la communication et à l'innovation numérique de la métropole du Grand Paris et par ailleurs maire du 17e. Geoffroy Boulard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Également en duplex, le directeur général de Facility. Il s'agit d'Yves Cornu, puisque Facility est une société qui a pris à bras-le-corps ce sujet. On en parle dans un instant. Je me tourne vers vous, Geoffroy Boulard, parce que ce problème, cette fracture numérique, on en parle depuis longtemps et elle existe toujours. Et vous vous dites, à la métropole du Grand Paris, nous avons une démarche inclusive. Le numérique, c'est un élément de réponse. Vous pouvez nous expliquer comment vous déclinez cela ?
Dès 2019, dans le cadre du schéma métropolitain d'aménagement numérique, grand schéma, grand plan métropolitain, on a mis dans nos priorités le fait de mettre en place des dispositifs pour favoriser l'inclusion numérique. C'est beaucoup plus positif que lutter contre la fracture numérique. Il y a des difficultés évidemment avec un certain nombre de publics dans nos communes, dans nos territoires, dans la métropole du Grand Paris. 131 communes, 7,2 millions d'habitants, 25% du PIB français, mais malgré cela, des grandes disparités entre les territoires. Et donc on a besoin d'avoir des outils qui sont pilotés par les maires pour lutter contre ces difficultés et cette difficulté d'appropriation des outils numériques. Le digital aujourd'hui a envahi nos vies et les personnes âgées, les personnes dans les quartiers en difficulté, les quartiers politiques de la ville qui ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'outils. Et donc on a en 2020 lancé un appel à projet pour que des communes se positionne pour distribuer ce qu'on appelle les passes numériques. Et on a été lauréat au niveau national, la métropole du Grand Paris, de cet appel à manifestation d'intérêt. Et donc aujourd'hui, sous l'impulsion de Patrick Ollier, on propose maintenant sur une trentaine de territoires de cette métropole des passes numériques qui permettent à des publics qui sont éloignés du numérique, qui est éloigné d'Internet, de faire ces démarches avec des médiateurs qui sont formés et qui sont professionnels à travers un réseau que nous animons à la métropole du Grand Paris.
Je reste un instant là-dessus parce que souvent, et c'est très bien, les collectivités disent « tiens, je mets tant d'argent, il y a des enveloppes ». C'est pas rien, on va en parler. Mais une démarche humaine pour accompagner des gens qui sont un petit peu déboussolés par cette société technologique qui va trop vite, c'est peut-être ça. Il ne suffit pas de dire « tiens, je mets 2 millions sur la table ». C'est ce que vous faites alors ?
Nous, ce qu'on a identifié, c'est que les maires, et d'abord, on est à l'écoute des maires, parce que c'est la métropole, donc c'est la fédération, la communauté de communes, 131, je rappelle, donc sur plusieurs départements, c'est à l'écoute de leurs besoins. Et eux, ce n'est pas de l'argent dont ils ont besoin. Ils en ont évidemment besoin pour soutenir des programmes. Mais d'abord, c'est comment on professionnalise des professionnels pour des médiateurs sur ces questions du numérique. Comment ils vont améliorer, en fait, cette appropriation par le public du digital, d'Internet, d'envoyer un email, de faire sa déclaration d'impôt, des choses de base. Et il y a des publics dans la métropole du Grand Paris qui sont éloignés du numérique, qui n'ont pas accès à ça. Il faut professionnaliser d'abord ces acteurs. Et les maires nous ont dit, on a besoin de vous. Nous, on connaît les acteurs. On ne demande pas à la métropole de nous identifier qui va faire pour nos habitants. On les connaît. Par contre, on a besoin que vous les mettiez en réseau, que vous les professionnalisez, et puis qu'ensuite vous donniez la possibilité, à travers ces passes numériques, ces chèques, ces carnets qui ont une valeur de 10 euros par heure, à des publics qui sont identifiés par les acteurs sociaux, par des acteurs associatifs, par des acteurs municipaux qui sont au contact des administrés qui sont le plus en demande.
Alors Yves Cornu, chez Facility, vous les connaissez bien, ces utilisateurs, et vous me disiez que la notion clé, c'est accessibilité. Et force est de constater que quand on parle de problème d'accessibilité, on pense tous à la largeur de la porte dans les bâtiments. Mais non, l'accessibilité, c'est déjà l'accessibilité au net. Quelqu'un handicapé qui veut aller au théâtre, il passe d'abord par le système de réservation de plateforme. Et s'il ne peut pas lire, comment il fait ? Quelle solution apportez-vous chez Facility ?
Et oui, c'est une bonne chose et c'est un premier pas d'avoir la connaissance du web grâce au pass numérique, par exemple. Mais une fois qu'on est devant son écran, si on a une difficulté, qu'elle soit visuelle, qu'elle soit motrice ou qu'elle soit cognitive, et ça représente, selon l'OMS, quand même près d'un gros quart de la population mondiale, comment faire pour arriver à déchiffrer ce qui est écrit ou arriver à interagir avec l'écran qui est en face de moi ou tout simplement arriver à comprendre, puisque nous, ce que l'on va faire chez Facility, donc Facility, c'est une start-up qui a été créée en 2018 à Limoges avant de s'internationaliser. Nous sommes également présents à la station F à Paris. On a développé donc une solution qui va permettre d'adapter ce qui apparaît à l'écran selon les besoins de la personne. Nous, le leitmotiv de ce que l'on voulait faire, c'est remettre l'utilisateur au centre du débat, c'est-à-dire que l'écran, ce qui va apparaître sur mon écran s'adapte à moi et plus le contraire, que ce soit à moi de faire la démarche de m'adapter à l'écran. Et donc voilà, on propose aujourd'hui plus d'un millier d'adaptations différentes pour que l'utilisateur puisse avoir un site web qui lui apparaisse sur mesure. Et je reprends votre exemple, je veux aller au cinéma, au théâtre, visiter un musée, j'ai besoin de connaître les horaires. Eh bien, si je suis dyslexique et que je ne sais pas différencier le 6 du 9, eh bien, grâce à notre solution, je sais que l'heure de fermeture, ce sera 19h et pas 16h. Et donc, je peux retrouver de l'autonomie sur les sites web.
Et effectivement, je ne veux pas citer toutes les maladies, mais dites-nous à qui ça s'adresse, vos solutions. Vous avez parlé des dyslexiques. Et on se rend compte, hein, quand je parlais avec vous, qu'il y a beaucoup de cas. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ceux que vous aidez ?
Oui, le spectre est extrêmement large. Alors, si l'on parle des problèmes visuels, par exemple, il y a tous les troubles liés à la reconnaissance des couleurs, tous les types de daltonisme. Comment faire quand je suis devant un écran et que je dois valider ou infirmer une information sur un pavé qui va être rouge ou vert et que je ne différencie pas ces couleurs ? On va adapter les contrastes pour que la personne puisse à nouveau discerner les couleurs. On ne lui redonnerait pas, bien sûr, la reconnaissance des couleurs, mais elle pourra voir les contrastes. Une personne qui va être gênée par des images mobiles et qui vont pouvoir créer, par exemple, des crises d'épilepsie, on va arrêter ces images mobiles. Une personne qui va avoir des maladies générant des tremblements de la main, donc que ce soit la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, des tremblements essentiels, on va arriver à adapter l'affichage pour que les zones de clic, par exemple, deviennent suffisamment grandes et espacées les unes des autres pour que cette personne retrouve de l'autonomie et ne clique pas par inadvertance sur une zone où elle ne voulait pas aller. On parlait de la dyslexie, ce sont des millions de personnes en France qui sont concernées.
Et puis, il y a peut-être les seniors, très très seniors, il n'y a pas que les gens vraiment, vraiment malades. Geoffroy Boulard, si je parle du SMAN, alors vous savez ce que c'est, je décris pour ceux qui nous écoutent le schéma métropolitain d'aménagement numérique. Je ne vais pas vous demander de relever le défi de résumer en 5 minutes, mais je crois qu'il y a beaucoup d'actions justement sur cette thématique de la démarche inclusive par le numérique.
Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, le schéma métropolitain, il permet de définir des priorités d'action pour une métropole en travaillant évidemment avec les maires, mais aussi à partir d'un diagnostic et essayer de couvrir toutes ces zones blanches. En matière numérique et d'inclusion numérique, il y a des défis, j'en ai parlé à travers le déploiement du pass numérique. Hein, c'est à terme 200 000 heures de formation qui est gratuite, hein, qui vont être proposées à des personnes éloignées du numérique, identifiées par des acteurs. On a aussi lancé récemment un autre dispositif en lien avec l'État qui a lancé le dispositif des conseillers numériques France Servic. Ces conseillers numériques, on a voulu, nous, dans la métropole du Grand Paris, les proposer aux bailleurs sociaux dans les quartiers qui vivent, pour certains d'entre eux, une certaine précarité sur le plan numérique. Et donc, on va s'adosser à des acteurs de terrain, des gardiens d'immeubles qui vont pouvoir faire remonter des situations, des personnes qui vont avoir besoin là d'un conseiller numérique, d'un accompagnement numérique plus présent et plus près de chez eux encore que le centre d'action sociale, la mairie, l'association ou le club sportif qui peut relayer les passes. Vous voyez, on a complété par une présence humaine permanente, et là, au plus près, c'est-à-dire en pied d'immeuble, dans la cage d'escalier quasiment. Et ça, c'est un enjeu important, et on a donc des bailleurs sociaux métropolitains qui ont répondu à cet appel, des régies de quartier et des associations. C'est le deuxième pilier. On a aussi, dans le cadre de la métropole du Grand Paris, un fonds métropolitain d'innovation et du numérique que je préside et qui a accompagné 80 projets depuis 2018. C'est la métropole qui abonde sur un certain nombre de ces projets, 3 millions d'euros pour un équivalent de 12 millions au total investis sur ces questions du numérique et de l'innovation. Et on invite les maires à travailler aussi sur cette question-là. Indépendamment des dispositifs que j'ai cités sur le PASS ou sur le conseiller numérique. Et on a des belles réussites sur la métropole. On est là pour accompagner aussi les projets qui peuvent dépasser le côté inclusion numérique, hein, et l'innovation dans la ville. Comment on crée la ville de demain? C'est une ville plus inclusive, on l'a dit, mais c'est une ville aussi plus intelligente. Et comment on peut apporter davantage de services? Et donc, on a beaucoup de maires qui nous proposent, nous soumettent des projets. Puis, on a des start-up qui nous disent comment on peut travailler avec une mairie pour expérimenter un dispositif comme celui de Facility ou d'autres, et on les accompagne avec un comité d'experts. Donc on se contente pas, si vous voulez, d'être guichet de subvention pour chaque commune. On va être là pour accompagner les équipes d'une commune qui réfléchissent, ou plusieurs communes qui se fédèrent à travers un territoire, pour porter une ambition sur le numérique au service des habitants. Et l'inclusion, vous l'avez dit, c'est un de nos engagements du SMAD, un mot un peu compliqué pour dire schéma métropolitain, plan stratégique sur cette question.
C'est intéressant ce mot sur les startups, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont des idées de cas d'usage et qui ne savent pas nécessairement comment travailler avec des administrations. Donc les liens existent, il faut qu'ils présentent leur produit, quel est le guichet justement.
Nous on a développé le programme à la métropole du Grand Paris Innover dans la ville, qui s'adresse donc, je vous dis, à des acteurs privés, publics qui veulent travailler ensemble d'une manière ou d'une autre. Soit c'est le privé qui veut travailler avec le public, soit c'est le public qui cherche une innovation et qui cherche à travailler avec une structure, qu'elle soit start-up ou pas, hein. Il y a des grands groupes aussi qui peuvent être intéressés. Eh bien, nous, on est là pour mettre en lien, mais surtout avec des experts, à la fois des financiers, à la fois des experts qui ont le lien avec les entreprises du numérique et qui sont au cœur de l'innovation aussi, qui connaissent les enjeux technologiques, les évolutions technologiques, les attentes aussi des communes. On a des exemples. Là, par exemple, j'avais une société qui crée, vous savez, des box connectées pour les halls d'immeubles. On a beaucoup de livraisons, vous l'avez vu, avec le Covid. On a eu recours à la livraison à domicile, hein. Le e-commerce s'est développé, mais ça pose aussi des problématiques de sécurisation des boîtes à colis. Eh bien, on a rencontré une start-up qui cherche à travailler avec des collectivités. Ben, concrètement, on la met en lien avec soit des bailleurs privés, soit des bailleurs sociaux, soit des mairies qui veulent créer cet espace sécurisé pour la réception de colis à destination et au profit des habitants, notamment, ou des immeubles de bureaux, par exemple. Voilà, ça, c'est l'innovation, c'est de faire connaître aussi l'innovation, et puis c'est inviter les maires à prendre des risques, parce que l'innovation, c'est faire un pari. Et faire un pari, c'est parfois échouer, c'est se dire que l'innovation, elle est peut-être pas mature, mais c'est rebondir, et c'est en tirer des conséquences pour avancer, faire avancer sa ville. C'est un travail de longue haleine, parce que on dit toujours que les maires sont un peu frileux. Non, ils sont pas frileux. Notre enjeu, c'est de rapprocher l'innovation, donc des start-up, des entreprises, des associations, qu'elle peut être aussi sociale, cette innovation, pas exclusivement numérique, des décideurs publics.
Alors, c'est vrai que quand on parle de numérique, certains tout de suite poussent des cris d'orfraie. On est dans le domaine de la technologie, ils se sentent dépassés. Et Yves Cornu, quand je vous écoutais, vous me parliez de cette anecdote. Vous avez vu un jeune pleurer parce que grâce à vous, grâce aux outils de Facility, ce qu'il n'arrivait pas à faire, il a réussi à accéder, à faire des déclics. Je ne sais plus de quoi il s'agit. Est-ce que vous nous parlez de cet aspect? On est complètement dans l'humain, finalement, quand on parle du numérique, là.
Absolument. Nous, vraiment, on place l'humain au cœur de notre stratégie, au cœur de notre entreprise. On est une entreprise certifiée B Corp, donc avec un impact sociétal très important et assumé. On a bien sûr dans l'équipe des personnes en situation de handicap. Ça nous arrive de prendre en stage des personnes qui sortent de prison pour les réinsérer, etc. C'est dans notre ADN. Donc l'humain est vraiment au cœur, et c'est pour ça que tout ce que l'on a construit, on l'a construit pour et avec l'utilisateur, et notamment avec un panel d'associations qui ont testé, qui testent à chaque fois qu'on lance quelque chose de nouveau avant de le mettre sur le marché. Et effectivement, si on prend l'anecdote que vous évoquiez, il y a un petit moment, on a donc lancé des aides pour la dyslexie on a rencontré un panel d'étudiants. Les étudiants en France dyslexiques qui le déclarent peuvent bénéficier d'un temps supplémentaire lors d'un examen pour pouvoir réaliser donc remplir leur copie. C'est pas du temps dont ils ont besoin. Du temps, c'est pas ça qui leur rendra la capacité de déchiffrer un texte, de déchiffrer un énoncé de mathématiques ou autre, parce que leur problème restera le même. Et donc, on leur a proposé d'utiliser Facility, donc de paramétrer leur ordinateur, leur tablette, pour pouvoir donc reconnaître les caractères qui leur posaient problème. Et en 10 minutes, on a vu ce panel d'étudiants déchiffrer un texte sur lequel ils étaient planchés depuis plus d'une heure sans arriver à le comprendre. Et oui, comme vous le disiez, on a vu des jeunes émus pleurer et se dire « mais pourquoi on n'a pas ça au quotidien ? Pourquoi on ne nous aide pas davantage d'un point de vue technologique ?» Car oui, la technologie doit être au service de l'humain au quotidien.
Vous avez peut-être une foultitude d'exemples comme ça aussi, Geoffrey Boulard, dans ce que vous rencontrez. Sur ces sujets qui sont majeurs, il y a beaucoup de bonne volonté. Je vois que l'État, dans le cadre du plan de relance, a mis en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la fracture numérique. Il y a plein de structures, Cap Digital, Paris & Co, la Caisse des dépôts, et bien sûr que le sujet et le problème est immense, mais on se dit qu'avec tout ça, comment ça se fait que le problème reste pas entier, mais enfin, qui est tellement à combler?
Parce que l'évolution, elle a été quand même assez rapide, et cette fracture, elle s'est révélée notamment la crise. Elle était présente avant, hein, faut pas se...
L'attente, voilà.
Ouais. Hein. Mais là, on a vu qu'il y avait un certain nombre dans nos villes, dans nos arrondissements, dans nos quartiers, on a vu qu'il y avait un certain nombre de parents d'élèves, par exemple, qui ne pouvaient pas faire suivre l'école à distance à leurs enfants. Ça a commencé comme ça. Donc, on a vu qu'il y avait ce besoin, qu'il y avait une réalité. Une réalité, c'est que tout le monde n'était pas au même niveau, et que on voit la digitalisation des services avancés, services publics aussi, qui s'y mettent. Donc on forme aussi, nous, des agents des services municipaux sur cette question de la digitalisation, la numérisation, à travers des procédures de dématérialisation. Mais derrière, il faut aussi que les publics soient accompagnés vers cela. Et je le dis, on a tous dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos métropoles, c'est pas exclusivement rural, c'est au cœur des métropoles, il y a cette fracture, et donc c'est cette crise qui l'a révélée. Et donc les dispositifs de l'État, ils sont les bienvenus, ils sont pas exclusifs, hein. Il y a des initiatives qui se prennent aussi indépendamment des pouvoirs publics, et c'est très bien aussi. Il y a beaucoup de structures, mais il y a beaucoup à faire, et c'est pour ça que voilà, en matière de numérique, d'inclusion numérique, de lutte contre cette fracture, plus on est nombreux, plus on est efficace. Il faut être coordonné et il faut professionnaliser les acteurs qui interviennent auprès de ces publics. C'est ce qu'on fait à la métropole en formant ces médiateurs numériques, ces conseillers numériques, France Service, qui sont labellisés par l'État, c'est très bien, mais il faut les mettre en réseau. Il faut de la bonne pratique partagée pour être plus efficace et puis être bien positionné par rapport au public cible. hein, je le disais. Si c'est dans le club de foot qu'il faut se positionner, ben, il faut y être. S'il faut être en pied d'immeuble dans, le, dans la cage d'escalier, dans la loge du gardien du bailleur social, eh bien, il faut pouvoir avoir cette souplesse. Et donc, c'est pour ça qu'il y a de multiples dispositifs. Nous, on essaie de donner une cohérence à cela et puis de rapprocher l'innovation des maires pour leur donner envie d'innover. Et d'innover, c'est faire un pari pour que on vive dans une ville toujours plus attractive, plus numérique, mais surtout attractive et accessible et résiliente. Ça, c'est très important.
Et Yves Cornu, comment ça se passe? Votre mission, votre cause, elle est belle, mais est-ce qu'on vous regarde de haut? C'est-à-dire hein, l'high-tech, les entrepreneurs, les startups, ça a bonne presse. Et puis, dès qu'on parle voilà, de handicapés, de classes et catégories exclues, on aime bien, mais on vous regarde sur le côté. Je me trompe, ça change ou comment ça se passe?
Alors, en 3 ans, on a vu un vrai changement. Il y a une vraie évolution des mentalités. Les aspects, notamment dans les entreprises RSE, prennent un pas vraiment qu'ils n'avaient pas il y a encore 3 ans. On a partout maintenant des interlocuteurs, que ce soit sur la qualité de vie au travail, puisque nos outils peuvent aussi s'adapter sur des outils métiers dans les entreprises. On a vraiment une prise en compte qui est évidente. Je le dis franchement, en France, beaucoup plus dans le secteur privé que dans le secteur public, où on a beaucoup plus de mal à avancer. Mais c'est ce qui n'est pas le cas dans les différents pays où nous sommes présents. Mais il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui que la différence est un atout et qu'il faut vraiment la prendre en compte au quotidien.
J'ai une autre petite question. C'est peut-être difficile d'avouer, dans notre société très moderne et très numérique, qu'on ne sait pas se servir d'Internet, pour une raison légitime ou non, que ce soit un problème de santé physique ou quoi. Donc, est-ce que détecter les publics, vous nous dites que vous pouvez aider ces personnes-là, mais est-ce que franchement, elles se manifestent toutes? Est-ce qu'il faut aller les chercher? Racontez-nous.
Non, il y a une vraie peur de la stigmatisation, c'est clair, que ce soit en entreprise ou dans la société. Il est évident que quand on regarde le nombre de personnes en entreprise qui ont une situation difficile mais qui ne le déclarent pas par peur de stigmatisation, par peur d'être écarté d'une évolution de carrière, etc., et ce chiffre est encore malheureusement beaucoup trop important chez nous. Et donc, nous, on le voit puisqu'on on travaille avec des associations. On a réussi aujourd'hui, et c'est très très important pour nous, à bien faire reconnaître le fait qu'on ne capte aucune donnée des utilisateurs. À aucun moment, un utilisateur ne va avoir à créer de compte. On a vraiment anonymisé tout ce que l'on fait le plus possible, justement pour qu'il n'y ait pas cette peur et cette crainte. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui. La personne a encore cette crainte, et on le voit quand on échange avec des utilisateurs, beaucoup ne vont pas vouloir participer à une enquête de satisfaction ou autre par crainte de stigmatisation, c'est clair. C'est un vrai sujet. Ouais.
Et est-ce que Geoffrey Boulard, vous qui avancez ces sujets d'innovation numérique, il y a ce côté-là, c'est-à-dire on fait un pas en avant, on veut bien faire, puis vite, alors, il y a la protection des données, les gens ont peur qu'on récupère leurs données. C'est difficile d'avancer dans ce cadre-là?
Oui, parce qu'il y a pour certains publics effectivement une méfiance, et le rôle justement des médiateurs, aussi des pouvoirs publics, de garantir que leurs données personnelles vont être respectées, qu'il ne va pas y avoir d'échange, etc. Donc ça, c'est notre rôle, hein. Tiers de confiance, hein, on est là pour ça. Après, c'est pas réservé, cette non-maîtrise des outils Internet pour le quotidien, hein, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Aujourd'hui, on a besoin d'Internet pour le quotidien. C'est pas pour loisir. Là, maintenant, il y a. Eh bien, ça, c'est aussi côté jeune et des jeunes qu'on rencontre cela. On voit qu'ils maîtrisent très bien certains réseaux sociaux, mais les bases, par exemple, d'outils numériques. Je voyais là, on va bien maîtriser Instagram, on va échanger, on va même s'appeler via les messageries des réseaux sociaux, mais pour faire des recherches sur voilà, les moteurs de recherche, pour optimiser des recherches, pour même travailler sur des documents partagés avec les outils qu'on connaît en cloud, etc. Eh bien, parfois, on se rend compte que les jeunes ne sont pas bien formés. Parce que, bon, ils ont utilisé l'Internet ou le digital à des fins que, voilà, de, sociales, hein, d'échanges.
C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé d'éducation. Peut-être que... Est-ce qu'elle a un rôle à jouer ? C'est-à-dire, vous, les territoires, les collectivités, vous faites beaucoup. Est-ce que ça doit se passer dans le cadre de sociétés, d'associations et de l'éducation ? Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus.
Mais l'éducation, oui. Il y a un certain nombre de programmes aussi pour équiper les écoles en écran numérique, tactile, de former les enseignants aussi à de l'enseignement qui évolue, qui se digitalise. Donc ça progresse. Moi, par exemple, dans le 17e arrondissement, on a décidé avec l'équipe municipale voilà, de progressivement doter d'écrans numériques, d'écrans tactiles, les écoles qui sont volontaires et surtout les professeurs qui sont volontaires pour être formés et faire évoluer leur pédagogie, leur enseignement, parce que ça a forcément une traduction concrète pour eux dans leur transmission de savoir. Mais quand on fait le retour d'expérience, ils en sont ravis et on a beaucoup de réussites. Donc ça progresse, il faudrait que ça aille peut-être plus vite. Et là, l'éducation nationale a son mot à dire aussi et doit pouvoir aider les collectivités sur ce plan.
Et Yves Cornu, quand on vous écoute les uns les autres, hein, différents points de vue, des sociétés, des start-up et des collectivités, mais on a l'impression que la démarche, là, ça converge, que c'est gagnant pour tout le monde et bien sûr pour les utilisateurs. Vous le voyez comme ça ? C'est rare, les sujets comme ça, où c'est gagnant-gagnant.
Non, c'est clair que on a tous à gagner à avoir une société plus inclusive et aujourd'hui, la société est numérique. Donc, il n'y a même pas de débat. On doit tous trouver la solution pour aller dans le même sens en ne laissant personne au bord du chemin. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, on trouve de plus en plus facilement, en ce qui nous concerne, à créer des partenariats absolument transverses entre des entreprises, des collectivités et des start-up, que ce soit nous ou d'autres. Mais oui, il y a une vraie convergence aujourd'hui parce que c'est devenu un sujet de société. Et aujourd'hui, on sait tous que notamment les réseaux sociaux dont on parlait sont très attentifs à ces problèmes d'inclusion.
Geoffroy Boulard, la métropole du Grand Paris, c'est une grande structure. Est-ce que d'une commune à l'autre, tout le monde, bien sûr, peut-être sur le principe, le diagnostic est OK, mais vous parliez tout à l'heure de l'évolution de l'administration qui attrape et qui intègre les outils numériques. Vous êtes un jeune élu, tout le monde n'en est pas au même stade, donc est-ce qu'il y a des niveaux de génération et d'une commune à l'autre, même si on veut bien faire, ça ne va pas aussi vite un peu partout ?
Je vais vous surprendre, c'est pas forcément des maires jeunes qui sont à la pointe en matière de digitalisation de leurs services publics et de formation de leurs agents. Hein. Moi, j'ai des exemples dans la métropole, je ne donnerai pas les noms pour ne pas les vexer, mais il y a des maires qui sont depuis très longtemps engagés dans ces démarches auprès de leurs agents, auprès de leurs administrés et qui travaillent sur les questions d'inclusion pour les personnes qui sont les plus éloignées qu'ils ont identifiées sur leur territoire. Donc, c'est pas une question générationnelle. Moi, je crois que c'est une question aussi de vision et de prospective et de se dire que, voilà, à un moment donné, alors on peut regretter ou pas, mais on y va et donc il faut emmener tout le monde. Il faut emmener les publics les plus éloignés. C'est le rôle aussi d'une métropole, d'une commune.
Donc, on a compris la stratégie. Je ne sais pas si vous voulez rappeler les montants mis en avant, parce que la métropole du Grand Paris a lancé le pass numérique, mais il y a d'autres actions et c'est plusieurs millions. Donc, finalement, sur ce domaine, qu'est-ce que vous engagez ?
Oui, le Fonds métropolitain d'innovation et du numérique à destination donc des maires, il est doté de quasiment, enfin c'est quasiment 3 millions d'euros, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont été investis hein, dans ces programmes. C'est aujourd'hui une volonté du président Ollier de le doter davantage. Donc ça, c'est important. Et puis, dans le cadre du pass numérique, on a mis autant que l'État, c'est-à-dire 50-50 sur les projets de déploiement du pass sur les 15 premiers territoires. Puis sur les 16 territoires, on a fait voter ça hier au bureau métropolitain. Et on compte avoir encore davantage de subsides de l'État pour faire effet levier avec l'apport de la métropole. Vous savez, on est une métropole agile, on a une centaine d'agents et de fonctionnaires qui sont mobilisés pour une métropole qui fait 7,2 millions d'habitants. Donc c'est une métropole de projets et les projets sont déterminés par les maires. Et les projets en matière de numérique, ils font l'unanimité. Et ça, c'est une force aussi dans une métropole, c'est que là-dessus, il n'y a pas de sujet politicien ou partisan. On tire tous dans le même sens et tous les territoires qui s'intègrent dans les programmes que nous proposons sont de couleurs politiques différentes. C'est aussi la force de la métropole que de pouvoir travailler avec tous les maires, quel que soit leur territoire, leur histoire politique, leur géographie. Et donc c'est important, mais il y a beaucoup à faire et on est évidemment très mobilisés pour cela.
Un petit mot pour conclure, Yves Cornu, on a parlé de solutions, qu'il y a des démarches qui existent, mais j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas assez dit, j'ai l'impression que c'est facile en fait. Parfois, il ne faut pas imaginer que c'est une révolution. Vous avez l'air de dire que vous permettez à des gens de s'approprier le numérique, et c'est une question de clic d'apprentissage. Vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît ?
Oh, c'est effectivement extrêmement simple. Utiliser notre solution. Alors déjà, pour un propriétaire de site web, ça lui prend 10 minutes à la mettre en place. Donc il y a pas de question de mobilisation de ressources ou de choses très compliquées. C'est très très simple et très rapide à mettre en place. Et puis pour l'utilisateur, il n'a qu'à paramétrer en 1, 2, 3 clics les adaptations dont il a besoin. Et l'avantage, c'est que on va pouvoir croiser différents types d'adaptations. Une personne peut, par exemple, avoir la maladie de Parkinson et être daltonienne. Donc, on peut cumuler les deux adaptations pour avoir quelque chose qui est vraiment sur mesure. Et à partir du moment où la personne aura paramétré ses besoins, son filtre va le suivre de site en site. Tous les sites qui sont équipés lui apparaîtront selon ce besoin. Elle n'a plus rien à faire. Et aujourd'hui, puisqu'on parlait de chiffres il y a un instant, nous sommes extrêmement fiers et satisfait d'avoir pu, en 3 ans, aider 1 million de personnes à retrouver de l'autonomie sur Internet. Donc c'est notre grande fierté pour l'ensemble de l'équipe de au quotidien d'aider des milliers et des milliers de personnes sur le web.
Geoffrey Boulard, je vous rends la parole pour un mot de conclusion. On l'a bien compris, pour vous, l'innovation et le numérique, ce sont des moteurs puissants de transformation de l'économie, mais de la société aussi.
Oui, la société, l'attractivité de nos territoires, le fait de vivre dans une ville où on respire bien, où on a accès aux services essentiels rapidement, où l'empreinte carbone, elle est diminuée par l'usage aussi d'un certain nombre de services dématérialisés. C'est aussi l'enjeu. Donc l'innovation, elle est très importante pour nos territoires et le numérique va avec. Mais le numérique, il ne doit pas exclure, il doit au contraire inclure et inclure tout le monde. Et ça passe par forcément des dispositifs d'accompagnement au plus près des quartiers et des besoins et des personnes qui sont en précarité ou qui sont... Parce que c'est un facteur d'exclusion sociale aujourd'hui. Ne pas avoir accès au numérique, ne pas maîtriser les éléments de base d'Internet pour faire ses démarches en ligne, prendre un rendez-vous pour aller se faire vacciner, c'est l'actualité, eh bien c'est aujourd'hui une vraie difficulté. Et on le voit dans tous les centres de vaccination, vous avez beaucoup de personnes qui refusent ou qui n'ont pas accès surtout, qui n'ont pas accès à Internet pour prendre rendez-vous, donc qui viennent dans les centres. Donc on voit encore qu'il y a du travail et c'est de l'accompagnement parce que souvent parfois des personnes plus âgées. Et donc il y a toute cette nécessité de dispositifs coordonnés et de professionnels naturellement à leur disposition.
En tout cas, on a bien compris, la métropole du Grand Paris est un échelon intéressant pour rassembler les intelligences autour des opportunités, des enjeux du numérique et de l'innovation et de l'intelligence chez Facility. Bien sûr, il y y en a beaucoup, puisqu'il y a déjà Monsieur Yves Cornu, directeur général et pas seulement. Merci d'avoir été avec nous en duplex. Geoffroy Boulard, je rappelle, vous êtes vice-président délégué à la communication et à l'innovation numérique à la Métropole du Grand Paris et maire du 10e arrondissement. Eh bien, merci d'avoir poussé les frontières du système pour arriver jusqu'au plateau de Radio Territorial. Merci à vous.
Comment rendre l'accès au numérique plus inclusif ? Une émission spéciale à retrouver sur Radio Territoria.